La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, on va mettre en relation des particuliers pour se motiver et faire du sport. Elisabeth, c'est la solution, elle s'appelle Podsport.
Podsport, quel que soit votre niveau, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez la possibilité de trouver en quelques minutes un ou des partenaires pour aller nager, courir ou aller dans une salle de sport ensemble. Surtout quand on connaît la durée moyenne de l'assiduité dans une salle de sport. Vous la connaissez?
Oui.
4 mois. Grâce à Podsport, ça va peut-être durer un peu plus longtemps.
C'est moi qui l'ai fait chuter, je crois.
Quelques chiffres.
J'ai jamais pris 4 mois.
moins pour vous, Marie.
Ah oui.
13 millions de personnes pourtant déclarent pratiquer ou avoir pratiqué une activité comme du fitness, de la danse, un sport de combat. Et là, c'était en 2018. Et près de 6 millions de Français ont un abonnement en salle de sport. Alors, pour ne pas abandonner, vous avez peut-être pour ça que vous avez créé Podsport. Bonjour Hervé Thieubeuf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Alors, effectivement, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Podsport. C'est que je me suis aperçu que moi, qui suis un passionné de sport et je fréquente les salles de sport. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai. On n'est pas loin de 50% des personnes qui, après s'être inscrites, ne vont plus au sport au bout de 2 mois et presque 60% au bout de 4 mois. Donc, j'ai voulu savoir pourquoi. À un moment, je me suis renseigné, donc j'ai essayé de rencontrer ces personnes-là. Manque de motivation, difficile de se dire « Allez, je vais à la salle de sport tout seul. » Alors que, honnêtement, vous avez une personne qui dit « Demain, on se voit à 8h, on va au sport. » Mais à 8h moins 10, vous êtes prête. À 8h moins 5, vous avez les baskets et quand ça sonne, vous sortez.
Vous ne pouvez pas poser un lapin tous les jours à
la même personne.
Vous y allez.
Et donc, je me suis dit, il suffit juste de rencontrer les gens. Et puis, dans des agglomérations comme Paris, enfin des grandes agglomérations, on s'est aperçu que plus il y a de monde, et moins on se parle. Donc, souvent, la personne avec qui vous pourriez aller faire un jogging, vous pourriez aller vous inscrire, c'est peut-être votre voisine d'à côté, votre voisine dans la rue. Mais comme personne ne se parle, je me dis, il faut une passerelle.
Donc vous avez créé cette plateforme, elle est toute jeune, hein, parce qu'elle a à peine quelques mois. Vous avez pu la tester cet été, au mois d'août.
Exactement, on l'a testée.
Et alors, qu'est-ce que ça donne?
Ça marche plutôt pas mal. Les gens, moi, les retours que j'en ai, je suis assez content, parce que je ne sais pas ce qu'elle donnera dans l'avenir, mais pour moi, là, c'est déjà pratiquement réussi. Parce que les retours que j'ai, c'est que les gens me disent, j'ai été courir avec ma voisine. On se croisait tous les jours, on se disait juste bonjour. Mais elle fait du jogging comme moi, voilà. Salle de sport, salle de sport moi, mais des voisins se sont réunis pour aller faire du yoga. Mm-hmm. Je ne savais pas que, voilà, les gens... Donc pour moi, ce pari, il est presque gagné. À partir du moment où ça a déjà marché, que des gens se sont rencontrés, je me dis, mais voilà, l'idée, je ne sais pas si elle était bonne, mais je crois qu'elle est utile.
Pour quel type de sport on a plus besoin d'un compagnon ou d'un camarade de jeu?
Mais je crois qu'il y a tous les types de sport. C'est juste après la personnalité, il y a des gens qui préfèrent faire du sport seul. Et après, tous les sports sont... C'est pas forcément le sport en lui-même qui est le plus important. C'est la démarche de se dire, on va se déplacer, on va aller quelque part, de faire tout seul. Regardez, comme juste un jogging. Alors là, en plus, on va arriver en hiver. Il fait moche, il fait froid, c'est encore plus difficile. Et vous êtes 2-3. Et ce que j'espère, ce qui va se passer avec Podsport, c'est quand vous allez rencontrer une personne, vous allez continuer à mettre des activités, parce que cette application, on en parlera peut-être un peu plus après.
Maintenant,
elle est j'y vais très, très vite. Elle est très simple. Il y en a quelques-unes qui existent comme ça, qui sont très, très bien. Ce n'est pas des concurrents. Et moi, je pense qu'il faut que tout le monde...
Elle est géolocalisable.
Elle est géolocalisable. C'est-à-dire que ça vous arrive. Vous êtes en vacances. Vous pouvez décider. Vous décidez de faire du surf. Vous allez dire, je ne vais pas aller louer un surf tout seul en disant, je me lance là-dessus. Vous êtes 3-4. On y va.
Et aller partout en France.
Et aller partout en France.
Marie, la coach.
Et donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez trouver des gens qui ont le même niveau. Vous pouvez sélectionner en fonction des niveaux. Parce que si je dois courir quelqu'un qui court à 15 à l'heure, moi, je suis foutue.
Non, mais c'est ça. L'avantage, c'est que cette application, moi, je l'ai voulu très simple. Il y a pas, vous ne mettez pas vos performances en disant, j'ai mieux couru que là, que la semaine dernière, ou que la personne, vous n'êtes pas en concurrence avec personne. C'est juste, vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous mettez une recherche, jogging, fitness, yoga, tout ça. Même handisport, parce que j'ai tenu vraiment à ce qu'il y a une handisport et puis un côté pour les personnes handicapées. Et puis vous regardez, ça vous intéresse, vous rencontrez la personne, enfin, vous mettez « je rejoins » ou vous chattez en direct, parce qu'il y a un chat live en direct. Si vous ne trouvez pas, vous mettez votre propre annonce et automatiquement, allez partout. Donc voilà, et là, vous avez tout ce qu'il y a sur Podsport. Il n'y a rien de superflu, juste l'essentiel.
Vous avez pu rassembler des fonds, comment ça marche?
Alors,
vous êtes sur des fonds propres?
Propres, des fonds propres. Là, vous avez tout le personnel de Pôle Sport. Sauf, non, je voudrais juste rajouter. Non, il y a vraiment quelqu'un qui est très important, qui m'a rejoint il y a peu, qui s'appelle Jenna Cohen, qui est une social media manager, qui, voilà, qui s'occupe de mes réseaux sociaux, des réseaux sociaux de Pôle Sport.
Mais vous envisagez de lever des fonds? C'est quelque chose que vous aimeriez faire?
Oui, c'est que je voulais. On sort d'une période de thèse, donc là, on est là maintenant, il y a eu un lancement grandeur nature sur la France. Donc, comme ça marche plutôt pas mal, à un moment, il faudra lever des fonds parce que je peux pas, comme j'ai pas les moyens financiers de grandes marques, en sachant qu'il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. C'est, toutes les semaines sont gratuites sur Pôle Sport. Hein, c'est ça qui est important.
Ouais,
le téléchargement est gratuit. Il n'y a rien acheté. Il n'y aura pas d'achat en plus derrière. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'un jour, il faudra envisager de lever des fonds pour pouvoir la faire connaître à plus grande échelle, cette application.
Marie.
Et puis, en termes de modèle économique, je crois que vous financez uniquement grâce à de la pub.
Oui.
À terme, est-ce qu'il n'y aura pas des partenariats à chercher avec des marques de sport? Nike est très actif sur le sujet. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un partenariat avec un Adidas?
Bien sûr, complètement. Moi, je suis vraiment ouvert à tout ça. C'est juste que je découvre un peu ce milieu de l'entrepreneuriat parce que ce n'était pas du tout mon cœur de métier. Je me suis lancé là-dedans.
C'est souvent comme ça, apparemment.
Oui, c'est ça. C'est que, à un moment, il faut y aller. Après, mais par contre, si ça ne marche pas, je sais que j'aurais pas de regrets. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu des doutes.
Mais il n'y a pas de raison, il faut y croire. Mais a priori, ça marche.
Vous n'avez pas idée comme moi, j'y crois. Je suis d'une détermination, mais sans faille pour cette application.
Vous savez quoi ? Ça s'entend. Ça s'entend. Et à mon avis, vous allez faire des émules. Alors, peut-être pas pour le jogging, mais qui sait, hein, Marie, on va peut-être s'y remettre. Merci beaucoup d'être venu nous présenter.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, vraiment.
Aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va essayer à notre manière de préparer l'avenir de l'océan. La planète bleue a besoin de nous et de vous. 3921, Twitter, on vous attend pour faire bouger la France. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Aujourd'hui, c'est à l'océan que nous allons nous intéresser ensemble. Et vous êtes les bienvenus, hein, d'ailleurs, si vous voulez intervenir, Céline.
Oui, vous nous écrivez via Twitter, @Europe1. Vous pouvez également nous rejoindre en nous appelant au téléphone 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
L'océan, car se tient depuis hier à Cherbourg le forum Au nom de la mer, avec cette question sous-jacente, qu'allons-nous laisser à nos jeunes générations? Alors, pour anticiper la dégradation, pour nettoyer, pour réparer et régénérer la ressource, on a, nous, voulu chercher les idées qui existent aujourd'hui en France. Et vous allez voir que ces idées sont là, et bel et bien. Bonjour Wilfried Point.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Azure Trend. C'est, je crois, assis devant une émission télé que vous avez eu l'idée de créer vos éco-tanks. On est en 2008.
C'est ça.
Vous êtes
exactement
déjà dans le nautisme, même si vous avez eu d'autres vies avant.
Tout à fait.
Mais vous cherchez une idée nouvelle. Qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Je suis spécialisé dans l'eau, en fait, dans la désalinisation de l'eau et le retraitement de l'eau. Et je me rends compte qu'en fait, dans les ports, la plupart des bateaux, les déchets ne sont pas en fait retraités. Alors il y a des déchets solides, puis il y a aussi les déchets liquides. Alors j'ai commencé par
les eaux usées.
Voilà, ce qu'on appelle les eaux usées dans notre jargon, c'est les eaux noires, les eaux de toilette, les eaux de salle de bain, les eaux de cuisine. Tout ça a été rejeté directement en mer, donc dans les ports ou dans les mouillages. Et j'ai essayé de chercher à savoir quelles étaient les solutions en fait qui étaient proposées pour récupérer. Et les solutions existaient, mais n'étaient absolument pas adaptées. Soit c'était des camions, donc c'était adapté qu'à des très gros bateaux, et puis ça avait une pollution visuelle, au niveau de l'odeur, au niveau du bruit. Ou alors c'était des stations fixes, et c'était adapté que pour des petits bateaux, et encore il fallait demander au bateau de se déplacer.
Du coup, vous vous mettez à construire un bateau qui peut directement aller en mer, récupérer entre autres les eaux usées des autres bateaux.
Pourquoi demander au bateau de se déplacer pour évacuer ces déchets liquides et solides? Pourquoi
vous allez
pas
à
plutôt
eux.
Aller à eux? Et en restant, par exemple, dans les ports, au centre du port, c'est-à-dire en n'étant pas visible. La vitrine d'un bateau, c'est l'arrière d'un bateau. Avoir un camion ou une station, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Nous, on intervient donc en fait directement par le centre du port. Et de cette manière-là, on est totalement discret. Et on récupère, donc au début, on a développé vraiment la récupération des liquides, donc toutes ces eaux-là. Et puis, évidemment, on a décidé d'en faire un couteau suisse, ce que nous, on appelle un laserman de la mer, c'est-à-dire un produit polyvalent sur l'ensemble des polluants qu'on peut trouver sur le littoral et dans les ports.
Oui, parce que En fait, il y a une réglementation, que dis-je, des réglementations qui sont extrêmement compliquées et qui viennent s'empiler. Hein. Ça fait une sorte de millefeuille. Résultat, vous êtes bloqué en 2011. Essayez d'aller au-delà. Qu'est-ce qui débloque la situation? C'est quand vous dites justement, je change mon fusil d'épaule et je vais faire le couteau suisse de la dépollution.
Non, je pense plutôt que c'est des gens qui ont pris conscience. Alors déjà, il y a des gens qui nous ont beaucoup aidés. Des gens comme Véronique Tourelle au sein de Port Propre, l'UPACA, qui ont eu conscience de cette problématique il y a très longtemps, qui ont même mis des lois, qui ont fait en fait passer des lois qui étaient internationales en lois françaises, puisqu'en fait tout ça est régi par l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, sous la Marpol. Et ensuite, il y a une directive européenne et puis des lois qui concernent chaque pays. Donc on a été aidés par des gens comme ça, puis on a été aussi aidés par des CCI, la direction de certains ports, le groupe d'intervention de la pollution marine avec M. Deléan, qui nous ont en fait aidés à faire appliquer la réglementation. Alors, appliquer, ça veut dire sensibiliser, faire comprendre aux gens que leur geste a un impact sur notre littoral, dans nos ports, et que ça aura un impact dans le futur. Et à partir de ce moment-là, on propose une solution, et si on propose une solution, on peut faire appliquer une réglementation. C'est un petit peu ça, c'est pas tout de suite venir taper sur les gens, c'est plutôt les accompagner pour qu'ils prennent conscience de la problématique pour le futur.
Eh oui, il faut qu'ils prennent conscience, effectivement, Elisabeth, que la pollution, c'est la première ennemie de la mer.
Bah, c'est le fléau numéro un, hein, parce que d'ici 2050, on estime qu'il y aura plus de matières plastiques que de poissons dans les océans.
C'est ça.
Parce que 80% de ces déchets proviennent des terres, hein, et puis ces déchets ont de lourdes conséquences sur la vie aquatique et sur l'homme. D'ailleurs, d'après National Geographic, concernant seulement la pollution marine issue des déversements de déchets en plastique, en 2019, il y aurait plus de 5,25 trillions de débris en plastique dans les océans du globe, dont 269 000 tonnes qui flottent à la surface.
Marie, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative justement développée à Mont-Sartou, hein, je ne l'ai pas dit. Hein.
Alors, à Mont-Sartou, ouais. Mais on couvre aujourd'hui la Méditerranée. On commence à être un peu sur l'Atlantique et les voies navigables, parce que les voies navigables, c'est un très 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 gros... C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En plus, les voies navigables, elles finissent dans la mer. Hein,
ouais, donc, on va en parler.
Ça
on
serait
va
bien
en parler.
Voilà, de les traiter aussi en amont.
Vous faites que les déchets flottants ou...
Non, donc on parlait bien des liquides et des solides. Là, on a parlé de notre activité... On pourrait dire de récupérateur, mais on est aussi ce qu'on appelle emergency. C'est quelque chose qu'on a sorti. Emergency, la mer, ainsi la mer. Mmh. Un peu les pompiers de la mer, c'est-à-dire que nous travaillons avec les communes, les régions, les ports, sous forme d'astreinte. On va former les agents portuaires, on va faire des audits de leur matériel. Et ensuite, quand il y a un incident, eux vont être à même à pouvoir, en fait, souvent je dis, c'est un peu comme la différence entre le SAMU, le pompier et le médecin. Eux, ils vont confiner. Ils ne sont pas là pour sauver un patient. Ils sont là, le SAMU est là pour, du moins, faire en sorte que le patient reste vivant jusqu'à la venue du médecin qui va le sauver. C'est exactement la même chose. On va essayer de former les agents portuaires ou de la ville à confiner la pollution de manière à ce que nous, on arrive et on puisse intervenir, la récupérer et rendre un espace propre et réutilisable. Les plages, les ports, et ce genre de choses.
La coach.
Et aujourd'hui, vous êtes avant tout présent en Méditerranée, si j'ai bien compris, mais également dans d'autres pays.
C'est ça. On a commencé, donc on a vendu entre autres à Dubaï. On commence à être présent sur le Qatar. Les Caraïbes, évidemment, c'est un gros marché. Les États-Unis, c'est encore un plus gros marché. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'existait nulle part. On a inventé ça quelque part. C'est ça aussi qui est intéressant parce que, bah, en France, on a plein d'idées, on a plein de choses. On aimerait être des fois un peu plus soutenu. Je tiens à le préciser parce que on pourrait être accompagné parce que c'est pas facile. Mais oui, on a inventé ça et aujourd'hui, on le développe sous forme de licence avec l'utilisation d'une application pour pouvoir rendre ce service dans le monde entier.
Et à quand l'Asie ? Parce que c'est l'Asie qui pollue le plus, il me semble, en termes de déchets marins.
Alors, vous savez, il faut savoir aussi suivre une croissance.
Évidemment.
Mon but, c'est de préserver ce qu'on a construit et de développer pour demain ce qu'il y a à faire. Alors, l'Asie, c'est très, très intéressant. Il faut aussi faire attention, c'est un marché qui est un marché pas évident. Donc, il faut savoir y venir, il faut savoir s'y implanter, je pense, et avoir les bonnes personnes. Faisons très bien la France, commençons à nous développer et puis avec plaisir, on ira en Asie.
On reste ensemble et on continue à parler de la mer aujourd'hui et des océans sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Ne pas détruire la ressource, à commencer par le jardin des mers. C'est un des objectifs que s'est fixé Pinarello Yacht Service avec un concept novateur pour, vous allez voir, remplacer les ancres. A tout de suite. Dans la France Bleue sur Europe 1, on parle de la planète bleue, comment prendre soin de nos océans. Vous en parlez avec vos invités, Raphaël Duchemin, et vous aussi, venez partager vos idées pour sauver l'océan en nous écrivant via Twitter, @Europe 1, ou en nous appelant au téléphone 3921, Raphaël.
Un des problèmes majeurs de la plaisance, c'est qu'il existe aujourd'hui des endroits où, avec le nombre de mouillages, les fonds sont littéralement dévastés. Alors, une idée est née chez Pinarello Yacht Service. Bonjour Christian Gallio.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette société qui est basée à Sainte-Lucie de Porto Vecchio en Corse. Votre activité de départ, évidemment, c'est de fournir des services de yachting, mais très vite, vous vous êtes aperçu que ça n'était plus suffisant. Qu'est-ce qui vous a fait opérer ce déclic ?
Alors, tout démarre il y a quelques années sur un constat. Donc, on s'aperçoit au fil des ans qu'il y a une augmentation de la fréquentation de la haute plaisance sur nos côtes, de la moyenne et la haute plaisance. Donc, on va cibler la haute plaisance aux bateaux de plus de 24 mètres, 24 mètres et plus. Donc, cette augmentation au quotidien dans nos criques et dans nos nuances qui sont très jolies, on a une dégradation des fonds importante suite aux ancrages répétitifs.
Parce que quand on fait descendre l'ancre, forcément, ça arrache les posidonies.
Alors, quand on arrive sur une zone et qu'on a décidé de s'ancrer pour passer la journée ou pour passer la nuit, on va lâcher son ancre avec ses longueurs de chaîne parce qu'on va se mettre à l'abri, on va passer quelques jours. Donc déjà, on a de la dégradation au niveau du moment où on lâche son ancre. Mais souvent, on se positionne deux fois parce qu'on n'est pas bien placé, parce que le capitaine du bateau ou les propriétaires du bateau veulent se déplacer un petit peu. Donc on le remonte peut-être une seconde fois.
Et on arrache.
Et on arrache au niveau des chaînages. Donc c'est des mètres carrés et des mètres carrés de posidonie arrachés. Donc la problématique, c'est que la posidonie, c'est une espèce protégée qui a deux fonctions. D'abord, c'est un abri à poissons, c'est une nurserie. Le poisson, il naît, il s'y développe et il s'y nourrit. Et ensuite, la deuxième fonction importante, c'est l'oxygène. Voilà, on a une réelle production d'oxygène, environ entre 15 et 20 litres d'oxygène par mètre carré.
Donc vous commencez à réfléchir pour trouver un système qui remplacerait l'ancre sans abîmer les fonds marins.
Tout à fait.
Et alors, vous pensez à une sorte de roche qu'on pourrait finalement faire tomber au fond de l'eau et venir s'accrocher dessus.
Tout à fait. Donc on a imaginé à ce que les zones de mouillage organisées, on puisse ne plus jeter son ancre et arriver à ancrer, à faire un geste incoresponsable pour ces gros bateaux et à ancrer sous un cormoran récorrécif, ce qu'on appelle. Alors qu'est-ce qu'un cormoran récorrécif ? C'est quelque chose qui a deux fonctions. D'abord, la première, c'est reconstituer la réserve halieutique détruite à l'endroit bien ciblé par les
parce
instances régionales.
Parce que les poissons pourraient venir.
Tout à fait. Oui, les poissons, ça redevient une nurserie à poissons. On recrée de la vie à l'endroit où elle a disparu aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est d'amarrer ces gros bateaux à la surface sans nuisance pour les fonds marins, en toute sécurité.
C'est en cours de réalisation ou ça y est, ça commence à être développé ? Vous êtes sur des prototypes ?
Alors, ça commence à être développé. On construit le mois prochain les premiers cormorans récorrécifs parce que nous sommes le seul endroit en Corse où on a eu l'aide de la région. On a eu notre AOT, une autorisation temporaire d'occupation maritime, justement pour notre semelle sur la petite commune de Tsonte, sur la baie de Pinarello, pour 20 cormorans récorrécifs, ce qui va nous permettre d'expérimenter le retour environnemental.
Est-ce que vous pensez que ça va suffire à empêcher les gros bateaux de venir au mouillage ? Est-ce qu'ils vont avoir finalement l'idée responsable d'aller s'ancrer là où sont déjà les autres ? Vous parlez de zones, donc,
tout à fait, ouais.
Donc ça veut dire qu'on a forcément des voisins.
On a forcément des voisins. Alors l'idée, c'est de travailler, et c'est là où la région et la maritime, les préfectures maritimes sont fortes, c'est de pouvoir faire un règlement de police qui interdit le mouillage en dehors de cette zone. Et en 2020, on a la réglementation qui se met en cours et qui dit que les plus de 24 mètres auront l'interdiction totale de mouiller dans la posidonie, d'où ces zones de mouillage.
Marie ?
Donc aujourd'hui, qui sont vos interlocuteurs et qui vous travaillez au jour le jour ?
Alors, c'est la CCI de Corse, l'Office de l'Environnement, le DTTM, Direction départementale, l'ADREAL, et les communes. Et les communautés de communes sur la région Corse, et on espère pouvoir gagner le bassin méditerranéen.
Elisabeth, il y a des communautés aussi qui luttent contre la pollution dans les mers. Ça, on n'en a pas parlé,
oui,
mais c'est important.
Notamment la start-up Robin des mers. C'est une communauté qui souhaite fédérer autour de cette problématique de la protection des océans. Et donc, pour pouvoir fédérer, bien, ils ont pas mal d'outils dans leur bagage, comme des dispositifs de collecte toutes simples, des systèmes de stockage et de tri des déchets à bord, des plateformes collaboratives qui mettent en lien les navigateurs avec tous ceux qui travaillent autour de cette économie circulaire. Tout ça pour que leur mission reste éco-responsable.
Christian Gallio, on ne l'a pas dit, mais c'est éco-conçu.
C'est éco-conçu, tout à fait. On a réussi aujourd'hui à fabriquer ce qu'on appelle un béton marin à pH neutre, avec une forme bien spéciale, avec une rigorosité spéciale pour pouvoir permettre à ce que la vie se fixe rapidement. Ensuite, on va mimer la posidonie avec une espèce de fibre, je dirais, végétale qui va permettre à ce que la vie y arrive rapidement. Et c'est un modèle d'assemblage de plusieurs éléments qui peut être dupliqué, je dirais, presque à l'infini pour pouvoir cibler la petite plaisance aussi et la haute plaisance en différentes tailles et de différentes formes.
On reste ensemble et on continue à sauver les océans avec vous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Lutter contre l'érosion, mais avec une solution naturelle, c'est le pari relevé par les Marseillais de Géocorail. A tout de suite. C'est l'océan qui est à l'honneur dans La France bouge, la protection des océans. On en parle cet après-midi avec vos invités, Raphaël Duchemin. La situation de nos océans vous inquiète, notamment à cause de la pollution. Vous aimeriez être plus actif pour protéger nos océans. Vous avez des questions pour nos invités? Appelez-nous au 3921, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1.
Oui, protéger la mer, c'est aussi protéger le littoral, les côtes avec... Les changements climatiques, la montée des eaux, la main de l'homme aussi ont été détériorés et ont tendance par endroits à disparaître. Alors pour ne pas abîmer davantage, eh bien Géocorail a eu l'idée de se servir du sable, notamment pour protéger les roches et aussi les récifs sous l'eau. Bonjour Philippe Andrani.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Géocorail. Géocorail, c'est tout simplement une invention, puisque l'entreprise est assez récente, elle existe depuis 3 ans. Mais vous avez imaginé une technique qui va permettre de fabriquer une sorte de béton naturel. Il est avec nous dans le studio d'Europe 1. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous faites des genres de pansements, c'est ça?
Oui, en fait, c'est une découverte un peu fortuite qui a été faite par les fondateurs de la société à l'origine. Et ils ont découvert que sous certaines conditions, en appliquant un certain courant électrique sur une structure métallique dans le sable, dans l'eau de mer, on arrivait à solidifier le sable. Et donc, depuis, nous développons une technologie qui nous permet de fabriquer une forme de roche qui a des propriétés comparables au béton, mais sans aucun apport extérieur.
Donc, à l'intérieur du morceau que je tiens entre les mains, il y a une grille métallique,
oui, tout à fait,
sur laquelle sont agrégés, finalement, des morceaux de sable, de roche, de sédiments. Et c'est ça qui va donner ce béton naturel?
Tout à fait. En fait, vous avez tout ce qui va être localement aux alentours de la grille. Ça va être du sable, ça va être des petits graviers, ça va être des coquillages, ça peut même être des tessons de bouteilles, on en a retrouvé, va se retrouver solidifié et agrégé parce que la grille permet de précipiter les matières minérales qui sont dans l'eau de mer naturellement. Et donc ça agit comme le liant.
Ça, c'est possible parce qu'il y a un procédé particulier?
Oui, en fait la grille est connectée à un générateur électrique et on la polarise et on modifie légèrement l'équilibre de l'eau au voisinage de la grille et c'est ça qui permet de retirer le calcium et le magnésium.
Ça crée un courant.
Voilà, ça crée un très léger courant, totalement inoffensif. On peut marcher sur la grille et c'est des techniques qui sont déjà utilisées dans les ports depuis très longtemps pour protéger les structures contre la corrosion. Et donc au niveau de la faune et de la flore, il n'y a aucun impact.
Ça veut dire que cette technique, elle peut venir réparer les endroits qui ont été abîmés. Vous pouvez recréer par exemple des digues ou des côtes qui sont en train de s'éroder?
Alors on ne va pas créer une digue dans son ensemble, mais on peut effectivement travailler sur des consolidations. Sous des enrochements, par exemple, vous en avez certainement vu, sont ces amoncellements de gros blocs qui permettent de faire de digues ou des protections contre pour la côte. Leur point faible, c'est souvent au niveau du sable en bas, où la mer va creuser et graduellement enlever les blocs. Et nous, par exemple, en mettant une grille assez épaisse sous l'enrochement, on va être capable de lier les blocs entre eux et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de blocs et que la digue dure plus longtemps et qu'en termes de maintenance, ça soit moins coûteux.
Vous avez commencé aussi à travailler avec la Marine nationale, ça c'est intéressant. Vous travaillez à la stabilisation de certains quais parce que là aussi, il y a un danger?
En fait, non, c'est plutôt une protection d'un parement, d'un quai, dans un endroit que vous connaissez sûrement, l'Arsenal à Toulon.
À Toulon, oui.
C'était notre premier client l'année dernière, la Marine Nationale. Et depuis, on continue à travailler sur le Var, en Charente-Maritime et même à l'étranger maintenant.
Oui, Zanzibar, les Maldives, c'est ça?
Alors ça, ce sont des endroits où on espère aller à terme. Mais on a fait un premier projet au Brésil et on travaille sur un projet dans le Pacifique qui permettrait de remplacer plusieurs centaines de tonnes de béton par une structure beaucoup plus légère et qui serait moins polluante pour le récif corallien.
Marie, notre coach.
Pour l'instant, vous parlez avant tout de digues, de choses faites par l'homme. Est-ce que ça marche aussi pour les falaises naturelles qui commencent à s'effondrer dans certains coins?
Oui, il faut quand même qu'on ait un apport d'eau de mer. Donc il faut qu'on soit au moins dans la zone de marnage où la marée va battre la falaise. Mais on a regardé un certain nombre de cas comme ça. Si on est dans une zone sèche, le phénomène qui est électrolytique ne fonctionnera pas. On regarde également aussi des sujets que ces messieurs traitent, les récifs artificiels, puisque c'est un matériau qui est très favorable à la vie. La faune et la flore marine vont s'accrocher dessus et très rapidement coloniser ce genre de produit.
Vous travaillez aussi sur des géotextiles. C'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est?
En fait, vous avez tout un marché actuellement pour des grands tubes qui peuvent faire entre 10 et 30 mètres de long, 4 mètres de diamètre, donc des choses très, très grosses, qui sont posées sur le fond à 100 mètres des plages et qui sont remplies de sable. Et donc, ce sont des ouvrages qui permettent de forcer les vagues à déferler à leur endroit au lieu d'aller déferler sur la côte elle-même et sur la plage et enlever du sable. Et un des sujets avec ces textiles, c'est qu'ils sont relativement sensibles aux agressions mécaniques comme les coups de couteau ou les hélices. Et nous, on est en train de développer avec un des leaders mondiaux en Hollande un textile qui a un conducteur dedans qui permettra de durcir une partie de ces tubes et de les protéger contre les agressions mécaniques.
Elisabeth, si on parle aujourd'hui des océans, de leur devenir, des dangers aussi qui les guettent, c'est tout simplement parce que c'est en ce moment le forum de la mer.
Oui, et ce forum au nom de la mer, c'est le premier qui est organisé, qui a commencé hier, il se termine ce soir, il a lieu à la Cité de la Mer à Cherbourg. Et donc ce forum veut montrer le rôle et l'avenir des océans. Par exemple, aujourd'hui, il y a une journée dédiée aussi aux jeunes collégiens. Il y en a plus de 2000 collégiens et lycéens qui viennent accompagnés de leurs professeurs pour participer à des tables rondes avec des experts pour éveiller cette conscience, éveiller la conscience des jeunes par rapport à la problématique de nos océans.
Les jeunes ont plus conscience que nous, finalement, aujourd'hui, de l'importance de cette fameuse planète bleue. Vous en diriez quoi, les uns et les autres? Qui a envie de répondre?
Alors, nous qui sommes directement confrontés en fait aux gens, puisqu'on apporte un service, on essaie beaucoup de passer par les enfants, par les jeunes, par des moyens ludiques, donc évidemment des journées avec les écoles, des petites bandes dessinées qui vont les sensibiliser sur justement le rejet des plastiques, des liquides, parce qu'on sait que ça passe mieux si ça passe par eux pour dire à leurs parents. S'ils disent à leurs parents « ne fais pas ça », Ils vont plus écouter. Si c'est nous qui le disons directement, il peut avoir même des fois des confrontations parce que, par exemple, si vous parlez des eaux usées, ils vont vous dire « mais non, ça nourrit les poissons, c'est pas bien important ». Le problème, c'est que si c'est un bateau, oui. Quand c'est 500 millions de litres qui sont déversés sur le contour, ça a plus la même donne. Pareil pour les plastiques. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, les enfants sont les porte-parole de demain.
Je rebondis sur les plastiques. Elisabeth, on connaît une entreprise qui ramasse les plastiques.
Mais qu'on nous avons reçu ici à la France Bouge il y a quelques mois, c'est iClean My Sea, C-S-E-A aussi. C'est une appli qui signale les déchets plastiques en mer. L'idée, c'est de cibler notamment les embouchures des rivières parce que c'est là où transitent 80% des déchets plastiques.
On reste ensemble et on continue à parler du devenir des océans. À tout de suite.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend, 39-21, Twitter, La France Bouge. Avec vous, venez partager vos idées ou vos témoignages. À tout de suite.
Quel avenir pour nos océans? On en parle dans La France Bouge cet après-midi avec vos invités, Raphaël Duchemin.
Philippe Andréani, directeur général de Géocorail, Christian Galliot, directeur général de Pinarello Yacht Service et Wilfried Point, PDG du groupe Azur Train. Tiens, justement, question pour vous. Vous parliez de l'océan, de la mer, il y a les fleuves aussi. Je crois que vous avez un projet, vous avez été approché pour les JO 2024 par Paris, pour travailler sur la Seine.
Tout à fait. En fait, l'aventure a commencé avec le canal du Midi, qui est patrimoine de l'UNESCO, donc quelque chose de sauvegardé. On s'est rendu compte qu'il y avait des quantités énormes de volume rejetés, puisque toutes les péniches, les bateaux rejetaient. Et il s'avère que c'est exactement la même problématique sur la Seine. Alors, Madame Hidalgo a proposé de faire une des activités, du moins une
des épreuves
dans la Seine. Donc, c'est génial. Chirac avait déjà dit auparavant, oui. Monsieur le Président avait dit qu'il se baignerait. Il y a quand même du travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les bateaux que vous voyez sur la Seine, que ce soit des bateaux professionnels, des bateaux d'habitation, des péniches, des bateaux mouches, tous ces bateaux-là, ce qu'ils génèrent en pollution liquide, je ne parle pas en solide, les solides, il y a des moyens, mais en pollution liquide, c'est rejeté, c'est déversé, les eaux usées et autres. Donc, il faut apporter une solution. Mais avant d'apporter une solution, il faut déjà résoudre la problématique. Donc, il faut déjà attaquer et résoudre la problématique sur ça, donc nettoyer, sortir de l'eau, tout ce qu'on peut imaginer, les batteries, les bateaux coulés, tout, il y a tellement de choses. Et ensuite, apporter un service pour la récupération de ces liquides. Il faut savoir que ces liquides ne peuvent pas être mis dans un réseau, parce qu'il faut contrôler ce qui va être rejeté. Et les bateaux ne sont pas placés à des endroits où les réseaux peuvent être adaptés.
Ça veut dire qu'il faut que vous veniez
adaptés.
Avec un éco-tank, par exemple, et que vous stockiez les fameuses eaux.
Voilà, on va faire le tour avec les bateaux, de manière à récupérer l'ensemble de leurs polluants, et ensuite les emmener dans des endroits où ils seront retraités.
Marie ?
Et tout ce qui est en amont ?
C'est-à-dire ?
Tout ce qui pourrait polluer avant d'arriver à Paris, même si c'est beaucoup moins de volume.
On est bien d'accord, il faut traiter déjà avant la Seine, hein, puisque la Seine ne fait que charrier, en fait, quelque part aussi, les pollutions qu'on peut trouver en amont. Et il faut savoir que la problématique qu'on vient de parler, elle est partout. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à Paris ou dans le canal du Midi que les bateaux ne sont pas équipés. C'est dans toutes les voies navigables où les bateaux ne sont pas équipés et qu'il n'y a pas de réelle solution pour la récupération. Et on pourrait en plus aller plus loin, parce que tout ce qu'on récupère en termes d'eau usée, en tout cas, voire même de souillée, on pourrait les retraiter et les donner ensuite pour les espaces verts, la voirie. Demain, l'eau, c'est l'or et le pétrole. Hein. Et d'utiliser de l'eau potable pour la voirie et les espaces verts, c'est un peu une aberration. On boit de l'eau en bouteille et on utilise de l'eau potable pour ça. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a de l'eau douce, qu'on peut traiter de l'eau et de la rendre douce pour ça et ne pas utiliser de l'eau potable.
Christian Galliot, on était en Corse avec vous sur des solutions qui vont être mises en place dès le mois prochain pour une phase de test. Vous pensez déjà à la suite, c'est-à-dire à pouvoir prendre cette solution et la proposer au pourtour méditerranéen, y compris en Italie, en Espagne, au Portugal?
Oui, tout à fait. On est un petit peu plus que le test, hein, puisqu'on fabrique. On a déjà établi un cahier des charges, on a déjà établi toutes les études techniques, environnementales, prêtes pour commercialiser. Dans le cadre de quelques projets communs avec WIL, dans le cadre de la dépollution et de zones de mouillage complètement autonomes au niveau de l'organisation, on est prêt à commencer à fournir un petit peu ailleurs que la Corse, bien sûr.
Marie ? Question, remarque sur cette initiative.
À part que c'est génial, pas beaucoup de remarques à ajouter. Vivement que ça soit installé et qu'on puisse arrêter de détruire nos fonds marins.
Qu'on puisse plonger aussi, parce que l'idée c'est de pouvoir plonger sur ces abris à poissons.
Là, vous savez me parler.
Qui ont deux fonds marins importants.
C'est la même chose pour vous, hein, Philippe et Andréani. Finalement, on va venir avec des matériaux recréer la nature, recréer ce qu'on a détruit.
Oui, d'une certaine façon, et puis protéger ce qui reste aussi. Et on est dans un alignement malheureusement parfaitement négatif avec le réchauffement climatique. On va avoir une montée des niveaux des eaux et des phénomènes érosifs beaucoup plus violents. Et là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement d'aller limiter les dégâts et de faire en sorte que le trait de côte souffre pas trop. Quoi.
Vous avez identifié des zones où particulièrement on aurait besoin de ce type de solution?
Alors le travail est déjà fait en fait, et c'est plus difficile d'identifier des zones où il y aura pas de problème en fait.
Plus difficile d'identifier des zones où il n'y aura pas de problème.
Bon, hein.
Ouais. Cette solution, aujourd'hui, on l'a dit, ça fait 3 ans hein, que vous la développez. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous en dit quand vous arrivez avec? On est à l'écoute, on prend conscience que c'est important de la mettre en place.
Oui, c'est le milieu maritime est un milieu intéressant, c'est un milieu très empirique. Beaucoup de choses. La mer est un milieu assez complexe à gérer d'un point de vue ingénierie, calcul, etc. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Donc il y a un côté très empirique, très conservateur. Donc on a vraiment besoin de faire ses preuves. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et du coup, les choses prennent un petit peu de temps. Mais il y a aussi vraiment un enthousiasme autour de ce genre de sujet et de l'innovation, parce qu'on se rend compte que de toute façon, il faut qu'on bouge. On ne peut pas rester comme ça.
Merci à tous les trois d'être venus nous aider à mieux comprendre ce qui va se passer pour nos océans. On compte sur vous évidemment pour les protéger et sur les nouvelles générations, parce que c'est d'elles que viendra probablement le salut. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h46. Restez avec nous, on va plonger d'ici quelques minutes dans l'univers de Douce et Confiseur, direction Oraison, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est François Doucet Confiseur. Bonjour Jean-Marc Doucet.
Bonjour à vous, Raphaël.
Vous êtes directeur général de cette maison. C'est votre père qui l'a créé en 1969 à Oraison, dans les Alpes-de-Haute-Provence, avec votre mère. C'est pas complètement un hasard quand même s'il se lance dans cette aventure, parce que lui, il est déjà la quatrième génération de confiseur-pâtissier. Il a appris le métier avec son grand-père du côté de Montargis.
Oui, tout à fait. Donc mon père, François, a créé l'entreprise en 1969 à Oraison. Mais il avait acquis lui-même le métier auprès de son grand-père, qui lui-même l'avait appris de son père et de son père. Voyez,
ouais, l'arrière-arrière-grand-père, c'est ça, c'est Théodore Villard, dont la réputation des pâtes de fruits, je crois, au début des années 1900, n'est plus à démontrer.
C'était un des spécialistes de la pâte de fruits d'Auvergne.
À Clermont-Ferrand.
À Clermont-Ferrand, la maison Villard existe toujours.
Pourquoi avoir changé de lieu et avoir eu envie de voler finalement de ses propres ailes plutôt que de reprendre la suite?
L'idée, c'est de se rapprocher du verger provençal, de se positionner au cœur du verger provençal où on a toutes les bonnes productions de bons fruits, d'abricots, de poires, de pommes, d'amandes surtout aussi.
Oui, parce qu'il commence avec les amandes, avec les pralines, les fameuses pralines, c'est ça?
C'est ça. Donc,
un des premiers produits.
Voilà, tout a commencé avec la praline, donc c'est une amande de Provence qui est torréfiée, qui est enrobée de nougatine avec une recette spéciale.
Qui est là, qui est avec nous sur Europe1.fr, ouais, la praline.
Avec une nougatine spéciale aux herbes de Provence, qu'il a commercialisé tout d'abord localement, et puis progressivement le département, la région, puis interrégional, et puis maintenant sur toute la France.
Ouais, c'est ses parents qui lui ont prêté des sous pour qu'il lance cette fameuse praline au départ à Oraison.
Oui, on peut dire que la famille et les parents sont partis de, pas de rien, mais en tout cas de pas grand-chose, pour acheter le matériel nécessaire, et puis aussi entretenir la famille, et puis
se développer, parce qu'au démarrage, c'est dans le cassoir à amandes à Oraison, au cœur du village, et puis petit à petit, l'entreprise grandit, prend des locaux dans la zone artisanale, une première fois en 78, puis elle va grandir encore après. Comment elle s'est faite cette expansion et finalement, au fur et à mesure, vous avez aussi élargi la gamme?
Voilà, en fait, la croissance est venue à la fois de la croissance de la gamme et également de la croissance de la clientèle, donc les deux étant liés aussi. Mais tout a démarré effectivement dans un ancien cassoir à amandes, le dernier cassoir à amandes qui existait à Oraison, un cassoir industriel, mais qui est rapidement devenu obsolète, enfin en tout cas trop vétuste, ce qui explique qu'il se soit installé en 1978 dans la toute nouvelle zone artisanale, avec un bâtiment de 700 mètres carrés qui a progressivement agrandi, 1800, 2005, et puis maintenant on est à 5000 mètres carrés d'atelier.
Ouais, pour pouvoir travailler les fameuses amandes de Provence, les abricots, les poires, les pommes des Alpes, et puis désormais les figues également. Marie, une question?
Moi j'ai toujours été extrêmement impressionnée de ces histoires familiales. Qu'est-ce que ça fait d'être la cinquième génération à travailler dans ce métier, et comment est-ce que vous faites pour réinventer l'entreprise de génération en génération et lui faire passer le cours des années de la meilleure des manières?
Tout d'abord, c'est une fierté d'être la cinquième génération. Se réinventer, c'est un travail au quotidien, c'est l'écoute de la clientèle, des modes de consommation, de ce qui se fait, des tendances de la consommation aussi. Et puis également de notre propre intuition, inspiration, et qui permet d'agrandir sans arrêt et de renouveler la gamme.
Vous êtes engagé aussi, ça c'est important de le signaler, dans une démarche durable sur le chocolat, et puis vous plantez aussi des amandiers.
Voilà, donc en 2019, en début de l'année.
Parce que vous fêtez vos 50 ans cette année.
Tout à fait, oui. Donc 1969, 2019, donc cette année c'est l'année des 50 ans, la date précise c'est dans 15 jours, c'est début novembre. Voilà. Alors effectivement, on est engagé, très impliqué dans le plan de relance de l'amande. Et on a réalisé cette année, quand je dis nous, c'est l'entreprise, mais aussi toute la famille, les frères et sœurs, qui nous sont engagés dans un projet de plantation d'amandiers sur la commune d'Oraison.
Les frères et sœurs, ça veut dire que l'entreprise, elle est toujours familiale, elle le restera?
Oui.
C'est important, ça aussi.
En tout cas, c'est important, oui.
Être une PME familiale.
Oui, d'être une PME familiale et indépendante, c'est important.
Vous êtes également devenue une référence en ce qui concerne les pâtes de fruits. On en parlait dans le monde entier, aux Émirats, au Japon. Vous développez très fort en Asie.
Nos premiers clients se situent au Japon. Hein, le Japon est notre premier client, mais pas que. On se développe aussi maintenant dans certains pays d'Asie du Sud-Est, mais également au Canada, États-Unis, également en Russie, qui aiment beaucoup les produits français, en Australie, et puis aux Émirats arabes également.
La suite, c'est quoi aujourd'hui? De nouveaux produits, toujours, de nouvelles inventions, avec toujours ces fruits du terroir à mettre en avant?
Oui, la suite, c'est ça, c'est toujours innover, rechercher de nouveaux fruits,
essayer de trouver ce qui va plaire au
public,
aux gourmets,
oui, et toujours nouer des relations plus fortes avec nos fournisseurs, enfin nos producteurs de fruits. Ça, c'est fait partie des choses importantes.
C'est
de la manière qu'on le fait avec nos clients, avec nos fournisseurs en général, puis nos salariés également.
C'est François Doucet, confiseur, et c'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci Jean-Marc Doucet d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Merci
à Marie Sermadieras qui était de retour, notre coach aujourd'hui. On était ravis de vous retrouver. Elisabeth et Céline, on se dit à demain.
À demain.